Bonjour Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa fidèle tradition et qui par conséquent vous apprendra ou vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un certain temps déjà. Alors ceux pour lesquels ou celles pour lesquelles ça rappelle qu'ils en ont marre que je le dise, eh bien qu'ils écrivent à la radio. Bon, il faut arrêter avec les présentations. C'est toujours la même chose, bonjour, bonjour, et voilà, il faudrait qu'ils trouvent autre chose. Mais je suis à votre disposition, chers auditeurs, et surtout Trice. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un compositeur américain né le 23 novembre 1925 et qui nous a quittés le 29 juin 2020, le dénommé Johnny Mandel, qui était né quelque part dans les faubourgs de Manhattan, à New York City, en novembre 1925, donc vous l'avez déjà entendu. Son papa était, tailleur, et sa maman aurait voulu être une chanteuse d'opéra, ce qui sans doute a sensibilisé la famille à ce que leur fils fasse des études de musique. Il déménage très rapidement à Los Angeles à la faveur, si l'on peut dire, de la Grande Dépression qui suivit la crise boursière de 1929. Et c'est là, à Los Angeles, que le dénommé Johnny Mandel étudie, notamment à la Manhattan School of Music et la Juilliard School. Bref, il étudie avec les plus grand et d'abord orienté vers le piano. Il se tourne ensuite vers les cuivres, vers la trompette et ensuite vers le trombone. Et très rapidement, eh bien, il commence à accompagner notamment des jazzmen et d'autres orchestres ou autres. On le voit notamment dans le fameux orchestre de Count Basie dans les années 50. Et toujours dans ces années 50, eh bien, il compose quelques-uns de ce qui vont devenir des standards du jazz. Johnny Mandel, il n'est pas issu de la musique de film, il est vraiment issu du jazz, comme d'ailleurs une part de ses compositions pour le cinéma le prouve. Alors j'avoue que je ne suis pas spécialiste de jazz, donc je vous citerai quand même les compositions Potluck de Stan Getz pour Stan Getz, ou Low Life pour Count Basie, voire Tommy Hoff pour Chet Baker, bref, rien que des grands noms du jazz. Et c'est, je dirais pas incidemment, mais en plus, que Johnny Mandel s'oriente vers la musique, et son premier essai, il est fait, c'est un coup de maître, puisqu'en 1958, il compose la musique de Je veux vivre, I want to live, c'est assez clair, un film de Robert Wise, dans le rôle principal duquel on voit Suzanne Hayward qui joue le rôle d'une femme accusée du meurtre d'une riche veuve et qui se défend devant le tribunal puisqu'elle veut vivre justement à l'époque où a priori le meurtre dont elle est accusée ne peut que la faire condamner, j'imagine à l'époque, à la chaise électrique. Pour ce rôle, Suzanne Hayward obtient l'Oscar de la meilleure actrice. Quant à Johnny Mandel, eh bien, il est récompensé par un Grammy Award. Et donc, cet essai premier cinématographique, c'est un coup de maître. On écoute un petit extrait de cette bande originale. Ai-je précisé, maintenant ce sera fait, que le film était signé de Robert Wise. Je veux vivre dans 24 notes secondes. Thank you. La composition effectivement puissante de Johnny Mandel pour Je veux vivre, I want to live, un film de Robert Wise, un grand du cinéma américain sorti en 1958 et qui valut à Suzanne Hayward l'Oscar de la meilleure actrice. Et Johnny Mandel, donc, il signait là un coup de maître tout à fait dans la prolongation de la carrière très jazzy qu'il avait eue et que j'ai résumé avant d'écouter cet extrait. Mais ça collaboration avec la musique américaine ne s'est pas limitée ni au cinéma ni même au jazz, puisque l'homme aura collaboré avec quelques noms un petit peu connus comme Barbara Streisand, Tony Bennett ou Shirley Horn. Et comment s'appelle ce garçon? Frank Sinatra. On va continuer en dégrinant sa filmographie avec un petit bijou très oublié, un film tourné en 1964 qui sort fort joliment, s'appelait en français Les Jeux de l'amour et de la guerre. Ma foi, c'était plutôt bienvenu, même si ça n'avait absolument rien à voir avec le titre américain qui était The Americanization of Emily. Emily, eh bien, c'était la grande Julie Andrews, et son américanisation, eh bien, c'était le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle tombait amoureuse, à moins que ce ne soit l'inverse, d'un bel américain, évidemment, d'un beau soldat américain, James Garner, venu à Londres, en tout cas en Angleterre, à Londres, oui c'est ça, venu à Londres pour préparer le débarquement en Normandie. La tournure du film était ni très romantique, ni très guerrière, en fait c'était plutôt une sorte de comédie qui évoquait vaguement un autre film, et que je ne vais pas citer par hasard, signé lui Blake Edwards, « Qu'as-tu fait à la guerre, papa ?», une évocation de la Seconde Guerre mondiale, mais avec de l'ironie. On va en retrouver de l'ironie un peu plus tard, et si je le cite, c'est que James Garner et Julie Andrews, qui étaient les principaux interprètes des Jeux de l'amour et de la guerre, le furent bien des années plus tard de ce petit chef-d'œuvre, là encore signé Blake Edwards, que fut Victor Victoria, musique de notre cher Henry Mancini. Pour l'instant, on reste évidemment avec Johnny Mandel. On va écouter un très court et large extrait de cette bande originale, Les Jeux de l'amour et de la guerre, dans 24 notes secondes.
Silver bells, coral shells, carousels, and the laughter of children at play. Say, Emily, 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 and we fade to a
absolument délicieuse musique de Johnny Mandel pour The Americanization of Emily. Alors ce n'est pas hasard non plus si j'ai parlé d'Henry Mancini tout à l'heure. Irrésistiblement, je l'espère en tout cas aux fidèles de 24 notes secondes, cette musique ne peut qu'évoquer notre générique, qui est évidemment une musique de film, en l'espèce celle de Diamant sur canapé, Blake Edwards, Audrey Hepburn, George Pepper dans les rôles principaux, Blake Edwards là encore évidemment, et Henry Mancini à la baguette du Moon River, on pourrait le faire aussi là, ça ressemble à un pastiche d'Henry Mancini, mais ce n'était qu'une des facettes du talent de Johnny Mandel. D'ailleurs on va retrouver cette facette là dans la bande originale suivante, enfin pas tout à fait, mais je m'explique, qui est un extrait du Chevalier des Sables, un film de Vincente Minnelli sorti en 1965, The Sandpiper, je vous l'apprends, le Chevalier des Sables c'est un petit oiseau, peut-être que vous ne saviez pas, The Sandpiper c'est son nom en anglais, un film qui réunissait le couple le plus célèbre de l'époque, elle en l'espèce Elizabeth Taylor et Richard Burton, dont peut-être personne n'a oublié qu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage du Cléopâtre de Joseph Mankiewicz quelques années plus tôt et qui filait si on veut, le parfait amour. On sait que les relations entre les deux ont été quand même très tourmentées. En tout cas, eh bien, elles ont eu une fructueuse carrière cinématographique ensemble. On a monté, si on peut dire, un certain nombre de films sur leur présence à tous les deux. Et c'était le cas du Chevalier des Sables, où on voyait donc... Elizabeth Taylor, pardonnez-moi, interprétait une artiste peintre beatnik. Je vous laisse un petit silence après. Et Richard Burton, quant à lui, interprétait un pasteur. Je vous laisse là encore un petit silence après. Le résultat était quand même pas plutôt glamour, mais comme parfois limite du ridicule. Il faut dire que le film surfait justement sur la vague beatnik et que était tourné en partie à Big Sur, la fameuse plage californienne, mais uniquement 4 semaines, puisque M. Burton, ayant quelques ennuis avec le fisc aux États-Unis, la production se rapatria bientôt dans les beaucoup plus prosaïques studios de Boulogne-Billancourt à Paris, où on reconstitua donc la Californie. Tout ça, c'est le cinéma. Évidemment, il y avait beaucoup d'argent à la clé, puisque Richard Burton et Elizabeth Taylor se faisaient payer fort cher leur célébrité. Mais le film rapporta quand même pas mal d'argent. Et puis surtout, il permit à Johnny Mandel d'obtenir un Oscar pour la chanson du film. Alors, au grand désespoir de l'animateur de 24 notes secondes, je n'ai pas réussi à retrouver sur mes tablettes habituelles la bande originale. Donc, on va écouter une autre version de la chanson du film. Alors, la chanson, vous allez la reconnaître. La chanteuse qui la chante, vous allez la reconnaître aussi. Donc, je ne vous en dis pas plus. Un extrait du Chevalier des Sables, si l'on veut, dans 24 notes secondes.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile.
Faut bien dire que les auditeurs outristes qui ont appelé le standard, malgré la passion que je lui porte, pour indiquer que la chanson est interprétée par Céline Dion, peuvent éteindre leur poste, car ils devraient avoir honte. Je refuse qu'ils écoutent la suite de l'émission. C'était bien la douce Barbara Streisand qui interprétait The Shadow of Your Smile, qui est devenue depuis un standard. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elle le chante. Un extrait, non pas un extrait, mais en tout cas la chanson extraite de la bande originale du Chevalier des Sables, signée Johnny Mandel, qui obtint pour l'occasion un Oscar. Oscar, et un peu comme le Moon River d'Henry Mancini cité tout à l'heure, eh bien tout le monde ensuite voulu interpréter The Shadow of Your Smile. Tout le monde, c'est Shirley Bassey, Tony Bennett, Astrud Gilberto qui en fit un standard de la bossa nova, et on entendit même, enfin très rarement, mais on entendit même une version française, Le Sourire de mon amour, interprétée par Juliette Gréco et orchestrée par Alain Goraguer. Alors ça doit être collector quand même quelque chose. En tout cas pour Johnny Mandel, bah, c'était une consécration dans le côté vraiment très années 60 de la chose. On était en 65, donc un peu avant, je dirais, la floraison du Flower Power, et puis aussi mais 68, tiens, pour ne pas le citer. Mais en tout cas, on était vraiment dans cette tendance-là, et à leur façon, un peu contradictoire, Richard Burton et Elizabeth Taylor incarnèrent la chose, et Johnny Mandel lui leur donna à cette chose, eh bien, une forme musicale. N'est-ce pas joliment dit? On va passer à tout autre chose, vraiment tout autre chose, avec un film sorti cette fois en 1976 et qui ne rencontra pas le même succès que Le Chevalier des Sables, Le Marin qui abandonna la mer, un film de Lewis John Carlino, adapté d'une nouvelle de Yukio Mishima, un romancier japonais, mais transposé. Alors, on transposait donc, les personnages et puis la localisation. Par contre, on gardait la perversité d'une histoire assez compliquée d'un enfant orphelin de père qui faisait partie d'un groupe dirigé par une sorte de garçon sadique, bref, du Mishima pur jus. Dans les rôles principaux du film, on retrouvait Sarah Miles et Christopherson, et on écoute un extrait de la bande originale de ce film, dont je n'ai pas besoin de rappeler, mais je le fais quand même, qu'elle est signée de Johnny Mandel dans 24 notes secondes. Thank you. la poétique et un brin décalé, partition de Johnny Mendel pour Le marin qui abandonna la mer, un film de Lewis John Carlino, tourné en 1976. Dans les années qui suivirent, on vit Johnny Mendel moins actif. On pourra quand même retenir sa participation, mais ce n'est pas musicalement que le film était le plus remarquable, il faut bien le reconnaître, au Being There, tourné en 1979 par Al Ashby. Alors Being There, c'est en anglais, en français, ça s'appelait Bienvenue Mr. Chance, et on y voyait Peter Sellers, extraordinaire, dans le rôle d'un personnage mutique que du coup on prenait pour un sage et qui, sauf erreur de ma part, finissait par être élu président des États-Unis. C'est pas maintenant que les présidents des États-Unis seraient élus parce qu'ils ne parlent pas ou pas beaucoup, mais c'était un très très grand film, il faut bien le reconnaître. Et on va plutôt se quitter. Alors, je l'ai déjà dit, je crois, Johnny Mendel, lui, nous a quittés en 2020, donc il avait déjà plus de 90 ans, mais on va retourner dans le passé, bah justement vers les années beatnik évoquées tout à l'heure, pour écouter un extrait de la bande originale d'un film qui fut un très très gros succès ces années-là. Un film de 1970, il s'appelle MASH, un film de Robert Altman. Alors MASH, ça veut dire, en anglais, hein, Mobile Army Surgical Hospital, unité chirurgicale de campagne. L'histoire est inspirée de celle d'un roman autour de trois chirurgiens pendant la guerre de Corée. Mais comme on est en 1970, les allusions à la guerre du Vietnam étaient absolument transparentes pour tous les spectateurs de l'époque. C'était bien évident que c'était la guerre du Vietnam. Mais la particularité du film, c'est que loin d'être dramatique, comme pourront l'être après Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer et tous les grands films sur le Vietnam, le parti de MASH était satirique, c'est-à-dire qu'on y riait de choses pas forcément drôles. Il y avait la chanson du film s'appelle Suicide is Painless, le suicide, c'est pas, ça ne fait pas souffrir, donc on voit déjà un peu l'esprit du film qu'on pourra apprécier ou pas, mais en tout cas, ça marchait, et ça marchait d'autant plus que Robert Altman avait choisi et exigé même pour le tournage des acteurs complètement inconnus, dont je vais vous citer les noms, Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt, Robert Duvall, mais oui, à l'époque, ils étaient totalement inconnus, mais grâce à MASH, eh bien, leur succès fut celui qu'on connaît maintenant. Ce sont des acteurs connus, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. J'aurais garde d'oublier, elle ne fit pas une aussi brillante carrière que le rôle de Lèvres en feu, Hot Lips, dont personne, ayant vu soit MASH le film, soit la série qui en fut tirée, n'aura oublié, était tenu par la belle Sally Kellerman. Donc, comme je viens de l'évoquer, le film eut un tel succès qu'on envisagea une suite, mais que finalement on préfère une série télé, et on fit bien puisque la série fut un succès encore plus grand puisqu'elle dura plus d'une dizaine d'années. C'était Alan Alda qui reprenait le rôle de Donald Sutherland. On va écouter, alors non pas un extrait de la bande originale, mais on va écouter la bande originale, c'est-à-dire que vous allez entendre à la fois des extraits de la bande originale de Johnny Mendel, mais aussi des dialogues interprétés, pour ceux et celles qui ont les oreilles vraiment exercées, par Donald Sutherland, Elliot Gould et les autres. C'est une scène de sport, c'est-à-dire que pendant les intervalles où ils attendaient les patients, les blessés revenant du front pour les soigner, eh bien, tous ces jeunes gens, jeunes filles, qui s'occupaient à certaines autres choses, mais s'occupaient aussi de sport. Donc la scène qu'on va entendre, c'est du sport. Ne vous inquiétez pas, il y a des dialogues, c'est normal. MASH, Robert Altman, 24 autres secondes.
Hello, Blake.
Henry. Yeah. Charlie here. Yeah. I have a report here, Henry, from your chief nurse, Major O'Houlihan. She makes some accusations, Henry, I find pretty hard to believe.
I don't believe them, then.
Henry, if we had closer relations, we wouldn't have this misunderstanding, right? Now, that's where a football game will help, between your outfit and mine.
Football game?
Yeah, we put up a few bets, 5,000 maybe, and have a little fun. Special Services in Tokyo says it's one of the best gimmicks we've got to keep the American way of life going here in Asia.
Betting?
No, football.
Hawkeye, that man has 5 times the manpower to draw on than we do.
Sure, so we get ourselves a ringer, right? We get Henry to apply, make a specific application for a neurosurgeon. He asks for Dr. Oliver Harmon Jones.
Dr. Oliver Harmon Jones.
Oh, who is Oliver Harmon Jones?
He is better known as Spearchucker Jones.
He's a good ball player.
Oh, yes! He's a Negro ball player of the 49ers.
Sure.
Yeah, I remember. He's good. He's good.
All right, men, we're not here to sell lemonade. We're here to practice. But first, I'd like to officially welcome Spear Checkers. All right to call you that?
Call me whatever you want to.
Good. Well, I just want you to know that we're all the same here on the playing field, officers and men alike. Now, we're going to begin with the three basic principles: organization, discipline, and teamwork.
Now, pardon me. Do you mind if we limber up first?
Well, that's a good idea. You organize that. Well, we look pretty lousy, don't we?
Well, for college players that have been out of training for 7 or 8 years, yeah, you look pretty lousy.
He's not got an idea how we can make some money. We leave him out of the first half of the game. We bet half our money. They roll up some points, okay? Second half of the game, we stick him in. We get odds from him. We bet the other half of the money. We clean up.
That's very good thinking, Captain.
Yeah, it sounds good to me.
Oh, and I had another idea. I think we should have some plays. You know, usually in football, if you have some organized plays...
Well, look, if you don't mind, I took the liberty. I drew up about 7 or 8 plays.
These are good.
I think that's about all this bunch can handle.
Oh, very good. Yes, oh, very, very good. What are these little arrows?
Sorry, boys. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye-bye.
Well, it's only 6 points.
6 points?
It's only 1 point.
Who's that number one? That man runs like a rabbit. We can't stop him.
Yeah, I remember him from the pros. They call him Superbug. He had 1 year with the Rams before the Army
got him. We can't do anything with him in there.
Ease up just a little bit. We don't want to score too lopsided.
We're going to really clean up today.